VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui édition du jeudi 27 juin 2019. En direct de Washington, Idrissa Seroudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En Mauritanie, l'opposition a dénoncé hier un état de siège qu'imposerait le pouvoir au pays.
Au Sénégal, 238 kilos de cocaïne cachés dans des voitures neuves ont été saisis au port de Dakar.
En Libye, les forces anti-Haftar annoncent la reconquête d'une ville stratégique située au sud-ouest de Tripoli, la capitale.
Ici aux États-Unis, les démocrates ouvrent leur premier débat télévisé de la présidentielle américaine de 2020.
Au Venezuela, le gouvernement de Nicolas Maduro dit avoir déjoué une tentative de coup d'État militaire.
Et en sport, ne manquez pas notre journal de la CAN. Pour l'instant, le journal.
En Mauritanie, quatre candidats de l'opposition continuent de contester la victoire à la présidentielle de l'ancien chef d'état-major, Mohamed Cheikh Ould Ghazouani. Hier, ils ont accusé le pouvoir d'imposer un état de siège et de dresser les communautés les unes contre les autres. Raissa Girondin.
À Nouakchott, des militaires ont été déployés aux abords du palais présidentiel et du conseil constitutionnel qui doit se prononcer sur les recours de trois des candidats exigeant la tenue d'une nouvelle élection. Internet est totalement coupé depuis mardi, interdisant tout accès aux réseaux sociaux ou aux courriers électroniques. Rien ne justifie cet état de siège de fait que le régime impose aux Mauritaniens, a déclaré le militant anti-esclavagiste Biram Oulda Oulda Beyd. Il a accusé le régime de dresser les Mauritaniens les uns contre les autres pour couvrir son hold-up et son coup de force électoral. De nombreux manifestants qui ont été arrêtés appartiennent à la communauté négro-mauritanienne. Le ministre de l'Intérieur, Amédou Ould Abdallah, a annoncé mardi l'arrestation d'une centaine d'étrangers à la suite des incidents qui ont éclaté au lendemain du scrutin. Il a évoqué une main étrangère derrière ces troubles. Le même jour, les ambassadeurs du Sénégal, du Mali et de la Gambie ont été convoqués. Nouakchott veut que leurs ressortissants s'abstiennent de participer aux manifestations et à tout ce qui perturbe l'ordre public.
L'ONU a appelé hier les Ivoiriens à redoubler d'efforts pour que la présidentielle de 2020, qui s'annonce tendue selon de nombreux observateurs, soit synonyme de succès, de paix pour tout le peuple ivoirien. C'est ce qu'a déclaré l'émissaire du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mohamed Ibn Tchambas, à l'issue d'un entretien avec le président Alassane Ouattara. Beaucoup craignent une présidentielle 2020 difficile. La coalition qui avait permis l'élection du président Ouattara en 2010 et sa réélection en 2015 ayant volé en éclats.
La douane sénégalaise a annoncé hier avoir mis la main sur 238 kilos de cocaïne cachés dans des véhicules neufs sur un bateau au port de Dakar. Cette drogue venant du Brésil avait pour destination l'Angola. Le point avec Irénée Herman Umbo.
Selon un communiqué des douanes sénégalaises, la cocaïne a été découverte hier sur quatre véhicules dans un lot de 24 voitures neuves sur un bateau venant du port de Paranagua au Brésil et à destination de Luanda en Angola. La valeur de la saisie n'est pas précisée et les douaniers passent au peigne fin tous les véhicules du lot. En juillet 2007, le Sénégal avait fait une saisie record de 2,4 tonnes de cocaïne dans la zone de Mbour, près des stations balnéaires. Des latino-américains, dont des colombiens, un équatorien et un vénézuélien avaient été arrêtés, jugés et condamnés. La cocaïne est une poudre blanche produite à partir des feuilles de coca en Colombie, en Bolivie et au Pérou. Le trafic se fait de plus en plus par la mer avec des escales dans les Caraïbes, au Maghreb et en Afrique de l'Ouest. L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, dans son rapport annuel, estime que la production mondiale de cocaïne a atteint un niveau très élevé, près de 2000 tonnes en 2017.
En Libye, les forces loyales au gouvernement d'Union nationale, le GNA, ont annoncé hier avoir repris aux troupes du maréchal Khalifa Haftar la ville stratégique de Gariane, à 100 km au sud-ouest de Tripoli, où était basé le centre de commandement des forces pro-Haftar. Des dizaines de morts ont été signalées dans le camp de Haftar, dont le porte-parole avait auparavant accusé des cellules dormantes d'avoir facilité l'entrée des troupes du GNA dans une partie de Gariane, sans reconnaître la perte de la ville. Il a précisé que les combats se poursuivaient et que la situation était sous contrôle.
En Algérie, le commandement de l'armée au centre du pouvoir depuis la démission du président Abdelaziz Bouteflika a appelé hier les Algériens à la compréhension sur ses décisions critiquées par le mouvement de contestation inédit qui agite l'Algérie depuis le 22 février. Après avoir obtenu le départ le 2 avril de M. Bouteflika après 20 ans au pouvoir, les manifestants réclament désormais le départ des anciens piliers de la présidence déchue, encore au pouvoir, en tête desquels le chef d'état-major de l'armée, le général Ahmed Gaïd Salah. Selon lui, le commandement de l'armée ne nourrit aucune ambition politique.
Au Kenya, le tribunal de l'environnement a ordonné hier la suspension du projet de construction d'une centrale de production électrique à charbon sur l'archipel de Lamu, un site inscrit par l'UNESCO au patrimoine mondial. Morgan Guiriec.
Le juge a annulé une précédente décision de justice accordant une licence à l'entreprise Amu Power qui doit opérer cette centrale financée par la Chine et dont la construction n'a pas encore commencé. Le magistrat a ordonné une nouvelle étude d'impact sur l'environnement de ce qui doit devenir la première centrale au charbon d'Afrique de l'Est. Et ce projet patine depuis plusieurs années face à la résistance des défenseurs de l'environnement et des communautés locales. Il a également estimé que les consultations publiques auprès des communautés locales n'avaient pas été menées adéquatement. La société n'a toutefois pas indiqué si elle compte interjeter appel de la décision. Elle dispose d'un délai de 30 jours pour le faire.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, la ville de Miami a abrité mercredi le premier débat télévisé dans le cadre de la campagne présidentielle américaine de 2020. 10 candidats démocrates sur une liste de 22, tous unis dans leur volonté de chasser le président Donald Trump de la Maison-Blanche à l'issue de son premier mandat, y ont participé. Le point avec Jean-Roger Bion.
Oui, 2 heures de show politique au cours desquelles la sénatrice Elizabeth Warren du Massachusetts a eu le mérite de placer au cœur des discussions la question des soins de santé pour tous. La santé est un droit humain fondamental, a-t-elle lancé, l'air déterminé et recueillant de nombreux applaudissements. La gestion de la crise migratoire à la frontière avec le Mexique a pris aussi une grande importance dans le débat, alimenté par les révélations d'une ONG sur les conditions de vie sordides de jeunes migrants dans un centre de rétention et la noyade d'un père et de sa fille. Cette image est déchirante, elle devrait aussi nous mettre tous en colère, a lancé Julian Castro, qui espère devenir le premier président hispanique des États-Unis. L'accord sur le nucléaire avec l'Iran, le problème endémique de la violence par armes à feu, le changement climatique. Les prétendants démocrates à la Maison-Blanche ont exposé leurs vues souvent proches. Les plus petits candidats tentant d'imprimer leur marque pour décoller dans les sondages. Le sénateur Cory Booker, seul candidat noir sur le plateau hier soir, a multiplié les références aux difficultés encore plus criantes rencontrées par les minorités. Le deuxième débat démocrate est prévu ce soir même et s'annonce plus relevé avec les deux premiers dans les sondages, l'ancien vice-président Joe Biden et Bernie Sanders, rival d'Hillary Clinton en 2016, ainsi que deux candidats du peloton de tête, la sénatrice Kamala Harris et le maire Pete Buttigieg.
Le Sénat américain a adopté hier à une majorité écrasante une proposition de loi appuyée par les deux camps pour s'attaquer à la crise humanitaire à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Elle porte sur plus de 4 milliards de dollars et de nouvelles exigences pour la prise en charge des migrants en détention, les enfants en particulier. Le vote intervient en pleine controverse sur le traitement par l'administration Trump de ces mineurs et l'horreur suscitée par la photo en question des corps d'un migrant et de sa fille en bas âge, gisant au bord du Rio Grande.
Au Venezuela, le gouvernement a affirmé hier avoir déjoué une tentative de coup d'État militaire impliquant l'opposition, en lien, dit-il, avec les États-Unis, la Colombie et le Chili. Ces allégations ont été immédiatement rejetées par le chef de file de l'opposition et président autoproclamé, Juan Guaido. Selon le ministre vénézuélien de la Communication, Jorge Rodriguez, le coup d'État qui devait avoir lieu entre dimanche et lundi prévoyait l'assassinat du président socialiste Nicolas Maduro et impliquait des militaires actifs et en retraite, ainsi qu'un ancien chef du renseignement. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Place maintenant au journal de la CAN, présenté par Yacouba Ouedraogo.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le journal de la CAN. L'Égypte s'est qualifiée pour les huitièmes de finale après sa victoire, sa deuxième de rang dans la compétition face à la RDC, battue 2-0. Les pharaons, grands favoris, attendent de savoir qui ils affronteront. Les coéquipiers de Mohamed Salah pourraient être accompagnés de l'Ouganda, accroché un peu plus tôt par le Zimbabwe et encore en course pour un ticket pour les huitièmes, ce qui serait une première depuis leur finale en 1978. Tout le contraire des léopards congolais qui devront compter sur un miracle pour terminer parmi les quatre meilleurs troisièmes. Avant l'Égypte, le Nigeria s'est qualifié pour les huitièmes en prenant le dessus sur le Sili National de la Guinée 1-0. Les Guinéens sont dos au mur puisqu'ils avaient été accrochés par les Malgaches lors de leur premier match 2-2. La Guinée l'a bien compris, il y a des erreurs à corriger.
Moi, je pense que je suis un joueur comme les autres. C'est le boulot du coach. Je pense que nous allons regarder la vidéo et nous aussi, si on regarde la vidéo, nous allons essayer de corriger nos erreurs.
Naby Keïta, milieu de terrain guinéen. Ce soir, le match au sommet dans le groupe C opposera à 17h temps universel l'Algérie au Sénégal, tous vainqueurs lors de leur première sortie. Les deux coachs étaient en conférence de presse. Écoutons le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé.
Effectivement, il y a le retour de Sadio Mané qui peut nous apporter un plus. Avoir un joueur comme Sadio Mané, c'est un plus pour notre groupe. Il fait partie aujourd'hui de nos leaders et il est prêt en tout cas à intégrer l'équipe nationale du Sénégal. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, nous, c'est aborder ce match-là, comme je l'ai disais tout à l'heure, avec beaucoup de sérénité, jouer le match qu'il faut au moment où il faut, quand il le faut. C'est surtout ce qui est important. Et dans ce match-là, il n'y a rien de décisif. C'est le deuxième match de poule qui est important, mais il n'y a rien de décisif.
C'est aussi l'avis du coach algérien Jamel Belmadi.
Donc ce match contre le Sénégal, évidemment, est un match attendu par tout le monde, puisque c'est deux équipes avec un certain potentiel, des équipes qui ont bien démarré déjà dans leur groupe, avec des individualités ici et là. Nous, on prépare ce match-là avec beaucoup de concentration. Un match important, mais pas décisif.
Algérie-Sénégal, c'est le coup de sifflet de Jules-Valentin Ngoué depuis Libreville au Gabon.
Bonjour. Si les matchs de la deuxième journée sont souvent considérés comme des matchs de rachat pour les équipes accrochées ou de l'espoir pour la qualification directe, les nouveaux principes adoptés lors de l'élaboration du calendrier en ont fait des galops d'essai entre favoris de poule qui peuvent déjà se jauger dans des affiches dignes des finales ou demi-finales classiques. À ce titre, celle qui oppose ce jeudi le Sénégal à l'Algérie apparaît comme la plus alléchante pour plusieurs raisons. Il y a d'abord la qualité de la constellation des talents présents sur la pelouse, avec le retour en grâce d'un Sadio Mané qui a à cœur d'engager le duel fratricide à distance, l'opposant à son coéquipier de Liverpool, Mohamed Salah, pour la consécration individuelle. C'est dans des grandes rencontres comme Sénégal-Algérie qu'on capitalise des points. Il y a ensuite la qualité de la production collective. Le Sénégal se donne l'occasion de confirmer, face à un adversaire de taille, le statut de super favori que la composition de l'équipe sur le papier lui confère gratuitement. L'Algérie, elle, retrouverait, en cas de meilleure prestation, une rédemption pour le talent individuel de ses joueurs en la circonstance. La troisième dimension est strictement stratégique. Gagner la première place du groupe C permet d'éviter un gros en huitième de finale, l'adversaire désigné étant le troisième des groupes A, B ou F. Il est donc légitime de s'attendre à un feu d'artifice lors de ce premier grand choc, sauf si les équipes choisissent de temporiser et de remplir le service minimum, étant donné la longueur du tournoi et la canicule ambiante. Alors, feu d'artifice ou match de rodage pour des équipes pratiquement sûres de se qualifier, réponse ce jeudi soir.
Bien avant ce match au sommet, Madagascar et le Burundi s'affrontent à 14h30 temps universel dans le groupe B et à 20h, le Kenya joue face à la Tanzanie. C'est tout pour le journal de la CAN.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24h sur 24 sur Internet. voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Mauritanie, une centaine d'étrangers ont été arrêtés pour avoir, dit-on, participé aux manifestations post-électorales. Internet est coupé et le climat reste tendu dans le pays car l'opposition continue de contester la victoire du candidat du parti au pouvoir à l'élection de samedi dernier. Bagassi Koura a joint hier, mercredi, à Nouakchott Mohamed Diop, notre correspondant en Mauritanie.
Il y a parmi eux 43 Sénégalais, 39 Maliens, 10 Guinéens, 3 Gambiens, 2 Ivoiriens et 2 Nigériens. Ce qu'on leur reproche, c'est d'avoir donc participé, et certains, en tout cas selon les autorités mauritaniennes, les ministres de l'Intérieur, ils ont participé activement dans les manifestations. Et leur président d'association, eux, ils disent qu'ils étaient dans les places au mauvais moment, en tout cas.
Et c'est pourquoi les ambassadeurs du Sénégal, du Mali et de la Gambie ont été convoqués par le ministère de l'Intérieur?
Oui, effectivement, ils ont été, les trois ambassadeurs ont été convoqués hier pour leur faire part de l'information. Et de leur dire aussi, de dire à leurs ressortissants de faire preuve de prudence et de ne pas s'ingérer dans ces manifestations et autres. Aujourd'hui, par exemple, l'ambassade du Sénégal a fait une réunion avec sa communauté pour passer l'information et leur demander surtout demain de descendre très tôt de leur travail parce que demain, il y a une manifestation prévue par l'opposition. Et je veux juste ajouter qu'en termes de sanctions, les étrangers qu'on a arrêtés, le ministre a dit qu'ils seront fichés, mais également expulsés, de sorte qu'ils ne pourront plus revenir en Mauritanie.
Alors, on nous dit aussi qu'Internet est coupé. Est-ce que c'est toujours le cas?
Oui, c'est toujours le cas. Avant, c'était Internet mobile seulement qui a été coupé, mais depuis hier, ADSL également est coupé. Donc, c'est le blackout. Il n'y a plus d'Internet du tout en Mauritanie.
Les trois candidats de l'opposition ont introduit ce mardi un recours en annulation du scrutin devant le Conseil constitutionnel. Quelles sont leurs chances?
Difficile à dire maintenant. Depuis que la CENI, en tout cas, a confirmé presque les mêmes chiffres que le général Ndougazouani, qui s'était autoproclamé vainqueur avec 52% des voix. La CENI, d'ailleurs, a majoré un peu ses 52% des voix. Alors, ce sera difficile que, même s'il y aura peut-être des irrégularités que le Conseil va constater, mais que ces résultats, déjà proclamés, s'ils soient changés, ce serait un peu difficile.
Joint hier, mercredi, à Nouakchott, Mohamed Diop, notre correspondant en Mauritanie.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Contentieux électoral en République démocratique du Congo après les manifestations de l'opposition suscitées par les arrêts invalidant une vingtaine de députés de la coalition Lamuka, la Cour constitutionnelle a créé une chambre spéciale avec pour objectif de rectifier les erreurs matérielles qui aurait entaché les arrêts rendus par les juges. Cette chambre a organisé 3 jours d'audience et vient de transmettre ses conclusions au juge de la Cour. Les arrêts définitifs sont attendus dans les tout prochains jours. Reportage de Thierry Kamundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
167 dossiers en rectification ont au total été introduits dans cette chambre spéciale, pour la plupart par les députés de la plateforme de l'opposition Lamuka. La mission de cette chambre spéciale de la Cour constitutionnelle est de rectifier les erreurs matérielles dans les arrêts invalidant plusieurs députés nationaux. Quel crédit la population accorde-t-elle au travail de cette chambre spéciale après le tollé provoqué par quelques arrêts de la Cour constitutionnelle en défaveur de l'opposition? Des Quinois interrogés par votre radio ont répondu à cette question.
Bon, ce que j'attends est que la Cour doit procéder de la bonne manière. Il ne doit pas avoir de parti pris, être corrompu, c'est-à-dire qu'il doit dire clairement le droit. Si c'est lui qui a plus de voix, il mérite d'être validé.
En tout cas, moi, en tant que Congolais, je n'entends rien. Donc, il n'y a rien de bon là-bas. C'est aux députés qui étaient invalidés. Les patientés, ils auront la chance peut-être d'être élus par le peuple congolais avec un autre CENI. On attend les vrais cours qui seront installés par le nouveau président.
C'est une occasion pour la Cour de soigner son image parce que les erreurs commises il y a 2 ou 3 semaines ont été criantes. Les gens ont marché. Le peuple congolais commence à perdre la confiance envoyée à la Cour parce que ces invalidés-là ont été votés par les peuples.
La Chambre spéciale de la Cour constitutionnelle a terminé l'examen de toutes les requêtes. Il ne reste plus que la proclamation par les juges des résultat définitif, affirme Maître Willy Wenga, avocat au barreau de Kinshasa Gombe.
La Cour a examiné les requêtes introduites. Les avocats ont été entendus. Le ministère public a donné ses avis. Maintenant, nous sommes au stade d'attente de ce que nous dira la Cour par rapport à ces nouveaux arrêts introduits, à cette nouvelle instruction, à tous ces avis qui ont été donnés.
À l'opposition, on se satisfait également du déroulement de ces audiences et on espère réparation. Chérubin Okende est l'un des députés de l'opposition est invalidée par la Cour constitutionnelle.
La Chambre spéciale a été effectivement instituée et les audiences ont eu lieu régulièrement, donc toutes les parties ont comparu. Il y a aussi les avis pertinents du ministère public. En ce qui nous concerne dans l'opposition, 98% de requêtes ont été jugées recevables et fondées et maintenant nous sommes en train d'attendre le verdict des juges eux-mêmes qui vont prendre ces affaires-là en délibéré et puis nous communiquer leur décision finale.
Satisfaction également au Front commun pour le Congo du vice-ministre honoraire Papi Mantezolo, élu de la province du Congo central.
Cette chambre spéciale est en train d'évoluer très bien. La manière que je vis les différents débats, les différents avis du ministère public, je pense qu'on va redorer l'image de cette Cour constitutionnelle.
Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
VOA Afrique, 24h sur 24, à Kisangani, en RDC, sur 97.7 FM.
À l'initiative du Conseil supérieur des Burkinabés de l'extérieur de la zone sud des États-Unis, un forum économique et culturel de la diaspora du Burkina aux États-Unis a été organisé du 20 au 23 juin dernier dans la ville texane de Houston. Comment attirer des investisseurs dans les deux pays? Quel type d'échanges commerciaux possibles? Autant de questions qui étaient au centre des 3 jours d'échanges dont l'objectif était de promouvoir la culture burkinabé et de créer des opportunités d'affaires entre la ville de Houston et le Burkina. Reportage d'Arzuma Compaoré.
Venue des 4 coins des USA, la diaspora burkinabé vivant aux États-Unis s'est retrouvée à Houston du 20 au 23 juin pour promouvoir le Made in Burkina. Flora Kone Wedraogo de la compagnie Fleur Trendy.
Notre produit spécial du moment, ce sont des bonnets de nuit pour dames dans nos pains, dans les couleurs africaines. Voilà, pour rester chic au lit, mais aussi protéger les cheveux.
Hélène Zongo, commerçante burkinabé.
Je commercialise du produit à base de beurre de karité que je fais venir du Burkina Faso. Nous avons le beurre de qualité nature et d'autres crèmes composées, mais tout à base du beurre de qualité.
Fabrice Bambard de Kefari Fashion Wear.
On fait un peu dans les vêtements urbains, tout ce qui est t-shirt, casquette, polo. Le modèle que nous avons amené aujourd'hui, c'est un modèle qui présente les armoiries du Burkina.
Adama Fofana de Fanga Fringa Wear.
Fanga Fringa Wear, c'est une marque panafricaine qui est dans le domaine de l'art vestimentaire. On essaie de passer les messages prônés par certains grands leaders que l'Afrique a connus, notamment Thomas Sankara, Fela.
Alida Sankara est la fondatrice et la directrice de Harmony Design.
Nous sommes en train de valoriser le faso dans famille. Voilà, une opportunité pour montrer ce que nous faisons à Ouaga aussi.
En plus de l'aspect culturel, il était important pour les organisateurs du forum de mettre l'aspect économique au cœur des échanges. Rachid Barry est le délégué CSBE de la zone sud aux USA.
Nous avons visité les grandes chambres de commerce ici, discuté des partenariats en termes d'énergie, en termes de technologie, en termes de développement et en termes d'agriculture. Donc il y a beaucoup de partenaires qui sont en vue.
Seydou Kabore est l'ambassadeur du Burkina Faso à Washington.
Le jour où nous allons réussir à faire en sorte qu'on puisse venir
États-Unis avec des équipements américains au Burkina, transformer la production burkinabè, l'industrialiser et vendre sur le marché américain, je crois que ça va créer une dynamique inespérée qui va permettre de créer de l'emploi, créer de la richesse et lancer définitivement l'économie du Burkina Faso.
Pour les membres de la délégation venue du Burkina Faso, c'était une opportunité de découvrir le milieu américain des affaires et celui de la diaspora burkinabé. Nina Christelle Kielem est la représentante de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso.
Nous avons déjà rencontré la Chambre de commerce de Houston et il y a de belles perspectives et tout de coopération avec celle du Burkina Faso.
François Dassizi Yamwego est le secrétaire général du ministère de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur.
Nous constatons que c'est une occasion pour que notre communauté ici à Houston se retrouve. C'est une occasion pour qu'ils défendent en tout cas les couleurs de notre pays.
Arnold Zongo du comité d'organisation des JEC.
Je ne savais pas en fait qu'il y avait des Burkinabés, des dames aux États-Unis ici qui s'étaient lancés par exemple dans la transformation des produits Burkinabés, dans l'emballage, vraiment très professionnel quoi. Voilà.
Rihanna Traoré de Dimani Organics.
Avant il n'y avait pas de produits Burkinabés dans des grandes boutiques. Aujourd'hui on les voit grâce à Dimani et grâce vraiment au soutien de tous les Burkinabés.
Lors de la dernière journée du forum, arts plastiques, contemporains, artisanaux, culinaires, prestations d'artistes burkinabés, le comité d'organisation a tout mis en œuvre pour s'assurer que la fête soit belle. D'ores et déjà, les regards sont tournés vers la prochaine édition en 2020.
Ça, c'est les flambées de Ouaga. Avec Mama Aïda. Avec Association Sonia.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Les Palestiniens protestent contre une initiative américaine annoncée cette semaine à Bahreïn dans le cadre d'un nouveau plan de paix piloté par Jared Kushner, gendre et conseiller du président américain Donald Trump. Les Palestiniens ont boudé la conférence à Manama et il y a eu des manifestations de colère dans plusieurs villes du monde arabe. Le point avec Lionel Gahima.
Les Palestiniens ont affronté les forces israéliennes et ont brûlé les effigies du président Donald Trump. Ils dénoncent le plan appelé « Paix pour la prospérité » qui se donne l'objectif ambitieux d'investir 50 milliards de dollars dans les territoires palestiniens et les États arabes voisins. C'est le volet économique d'un nouveau plan de paix américain dirigé par Jared Kushner, gendre du président Trump et conseiller de la Maison-Blanche.
Mon message direct au peuple palestinien est que malgré ce que disent ceux qui vous ont laissé tomber dans le passé, le président Trump et l'Amérique ne vous ont pas abandonné.
Jared Kushner a dévoilé ce plan lors d'une conférence à Bahreïn en l'absence des responsables palestiniens ou israéliens. Le financement viendrait principalement de pays du Golfe sous forme de subventions et des fonds privés et on ne sait combien fourniront les États-Unis. Le président Trump est resté évasif sur le sujet.
Nous devons obtenir un soutien économique parce que les Palestiniens n'ont pas d'argent et nous devons les aider avec un peu d'argent. Et l'un des groupes que vous avez, ce sont ces pays du Moyen-Orient qui ont de l'argent, donc ont un rôle à jouer dans ce plan de paix.
Ce qui n'a pas convaincu tout le monde, Zaha Hassan est membre du réseau politique palestinien Al-Shabaka.
Vous avez toutes ces choses qui doivent être financées. Les Israéliens ne sont pas là, les Palestiniens non plus, et personne avec de l'argent ne viendra le déposer à cette conférence.
Les Palestiniens ont rejeté ce plan car selon eux, il ne répond pas à la création d'un État palestinien et ne règle pas le statut de Jérusalem et le sort des réfugiés. Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne.
Ce n'est que lorsqu'il y aura une solution politique sur la base du droit et la vision des deux États que nous pourrons accueillir ceux qui veulent nous aider à Manama ou ailleurs.
Par contre, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'est dit plutôt ouvert.
Je ne comprends pas comment les Palestiniens peuvent rejeter catégoriquement un plan avant même de l'avoir entendu. Ce n'est pas une façon de procéder.
Bon nombre de projets de ce plan dépendront d'un accord de paix israélo-palestinien. Les autorités américaines ne vont publier la composante politique de ce plan qu'en novembre, après les élections israéliennes, ce qui peut être aussi une erreur de calcul. Zaha Hassan du réseau Al-Shabaka.
Si nous ne savons pas où se trouvent les terres palestiniennes, Où se situent les frontières? Aucun de ces projets n'est réalisable. Et ils sont comme une sorte de chimère que la Maison-Blanche affiche, sans aucune idée sur la façon de les faire avancer.
Le manque d'implication des Palestiniens et des Israéliens met en lumière la difficulté de l'administration Trump à relancer les efforts de paix bloqués depuis longtemps.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, John Ellison. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.